Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de l'actualité de ce samedi 19 février. Alors que les touristes font leur grand retour en Australie après-demain, le Western Australia annonce rouvrir ses frontières internes dès le 3 mars pour les triples vaccinés. Pas de désescalade dans le dossier ukraino-russe, Joe Biden se dit convaincu d'une invasion imminente. Bamako et Paris à couteau tiré, Emmanuel Macron veut mettre un terme à l'opération Barkhane sous 6 mois. Le gouvernement malien dénonce une violation de leurs accords et lui demande de retirer ses troupes immédiatement. Un avant-goût de retour à la vie normale, il semblerait que l'Australie ait décidé de vivre avec le coronavirus finalement. On vous le disait dans les précédentes émissions, le pays rouvre ses frontières au tourisme dès lundi. Eh bien, la dernière nouvelle en date, c'est celle du Western Australia. L'état de l'Ouest, le plus réfractaire à alléger ses restrictions, a finalement décidé de rouvrir ses frontières internes sans obligation de quarantaine dès le 3 mars, à une condition toutefois, avoir reçu ses 3 doses de vaccin. Le Premier ministre de l'État, Mark McGough, a admis ne pas voir d'impact positif de la fermeture stricte du Western Australia sur le nombre de cas positifs. Toutefois, il persiste et signe, l'ouverture des frontières initialement prévues pour le 5 février n'était pas une bonne solution.
It was a tough call, one that caused inconvenience and disruption to those who had made plans around that date. As I said on the night, I'm sorry that we had to do that, but it was the right call for our state. It was a decision that saved scores, if not hundreds of lives.
Dans les autres États, le nombre de cas positifs, d'hospitalisations et de décès sont tous en baisse. Conséquence, certaines restrictions sont déjà levées. Dans le Victoria et le New South Wales, les habitants ont pu retourner en boîte de nuit sans restriction de densité. Les scans des QR codes ne sont plus obligatoires dans certains lieux, comme les magasins ou encore les supermarchés. Alors, si on fait un point rapide sur le dernier décompte des chiffres du Covid-19, 6280 nouveaux cas dans le Victoria, 20 personnes sont décédées, 54% de la population a reçu son booster, donc sa troisième dose de vaccins. Dans le New South Wales, 7615 personnes ont été infectées en une journée. L'État enregistre 12 décès. Il reste encore plus de 1000 personnes à l'hôpital. Une personne est décédée en Tasmanie. 585 sont tombées malades, selon le dernier décompte. 355 nouveaux cas dans le territoire de la capitale australienne. 40 personnes y sont encore hospitalisées. Et dans le Queensland, 10 personnes sont décédées. L'État enregistre près de 5000 nouveaux cas. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, surtout à l'oral. Si vous voulez suivre plus en détail les annonces concernant les épidémie de coronavirus et les décomptes officiels, sachez que vous pouvez vous rendre sur notre page internet SBS French. Un article mis à jour est publié tous les mardis et les jeudis dans l'après-midi. À l'international, la tension ne redescend pas à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Malgré l'annonce récente par Moscou du retrait de ses troupes, le Donbass a été le théâtre il y a seulement quelques heures de nouveaux bombardements. Dans la région séparatiste du Louhansk, un gazoduc a pris feu à la suite d'une explosion. On ne connaît pas exactement encore les raisons de cette explosion, mais pour les Américains, les Russes mettent en œuvre un scénario de provocation en vue de justifier une invasion imminente. Joe Biden, qui s'est entretenu en visioconférence avec les dirigeants de plusieurs pays européens, ainsi qu'avec le chef de l'OTAN, a pris la parole peu après la réunion. Pour lui, il est évident que Vladimir Poutine a déjà pris sa décision de déclarer la guerre.
Nous avons des raisons de croire que les forces russes prévoient et ont l'intention d'attaquer l'Ukraine dans la semaine qui vient, dans les tout prochains jours. Nous pensons qu'ils vont viser la capitale de l'Ukraine, Kiev, une ville de 2 800 000 personnes innocentes. Nous dénonçons les plans russes bruyamment et sans arrêt, pas parce que nous voulons un conflit, mais parce que nous faisons tout notre possible pour retirer aux Russes tout prétexte pour justifier une invasion de l'Ukraine et pour les empêcher d'agir. Ne vous y trompez pas, si la Russie applique son plan, elle sera responsable d'une guerre catastrophique et inutile qu'elle aura choisie. Les États-Unis et leurs alliés sont prêts à défendre chaque centimètre de territoire de l'OTAN et également notre sécurité collective contre toute menace. Nous n'enverrons pas de troupes combattre en Ukraine, mais nous continuerons à soutenir le peuple ukrainien.
Joe Biden qui peut compter sur un soutien indéfectible, celui de notre Premier ministre. Scott Morrison a dit que les menaces contre l'Ukraine étaient inacceptables. Il est lui aussi persuadé qu'une attaque russe est imminente. L'Australie est prête à se tenir aux côtés des États-Unis et à dénoncer les tactiques d'intimidation de Moscou, c'est ce qu'il a déclaré juste après avoir dit ça.
There hasn't been any withdrawal of Russian troops from the borders. The pretense is being sought for an invasion. There is no pretense for an invasion. into Ukraine. There is no justification for it.
Et dans tout ce conflit, on entend surtout les dirigeants russes, ukrainiens, occidentaux, Bruxelles, l'OTAN également. Mais comment réagissent les populations sur place? Il semble que les Ukrainiens se préparent au pire tout en gardant leur sang-froid. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater les envoyés spéciaux de Radio France Internationale dans la ville de Slavoutych.
Érigée au milieu d'une forêt, Slavoutych, la dernière ville construite du temps de l'Union soviétique, se retrouve aujourd'hui en première ligne. La frontière avec la Biélorussie n'est qu'à 12 km. Timur Gismatulin est le responsable du centre de la jeunesse de Slavoutych.
Le risque d'une agression, il a toujours existé. On a toujours vécu avec ce danger tout proche. C'est juste qu'avant, on y faisait moins attention et que maintenant, tout le monde s'y intéresse.
Slavoutych se prépare à toute éventualité. L'urgence sera de fournir le strict nécessaire de l'eau et de l'électricité à la population. Mais pour le maire, Yuri Fomichev, le plus délicat à gérer, ce ne sont pas les questions logistiques.
Le plus délicat, c'est d'éviter de tomber dans l'hystérie collective, comme le voudrait la partie adverse, en massant des troupes le long de nos frontières. La plupart des habitants sont arrivés de Pripyat, près de la centrale nucléaire. Ils ont été évacués après l'accident et aujourd'hui, ils s'inquiètent à nouveau de savoir s'ils vont être évacués. D'un côté, nous devons nous préparer le mieux possible, mais nous ne devons pas faire en sorte que la militarisation devienne la norme dans nos vies.
Les autorités élaborent aussi un plan alternatif pour continuer à acheminer les quelques 2000 travailleurs de la centrale, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le train entre Slavoutych et Tchernobyl passe par le territoire biélorusse.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie. On prend la direction de l'Afghanistan à présent et des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la décision des États-Unis de geler 3,5 milliards de dollars d'argent afghan. Le but est de les distribuer aux familles des victimes du 11 septembre. Les manifestants ont crié leur colère et leur frustration, accusant les États-Unis de voler cet argent et rappelant à Joe Biden que la plupart d'entre eux n'ont rien à voir avec les attentats d'Al-Qaïda, parmi eux Ghulam Seddik, écoutez son témoignage.
This money, which is frozen by the American government and that they want to spend it on 9/11 victims, belongs to the Afghan people. It does not belong to any group or government. We request that Mr. Joe Biden gives the money back to Afghans. He should not count this as his own money.
On vous le disait en titre, après l'annonce du retrait de la force Barkhane du Mali d'ici 6 mois, la junte au pouvoir à Bamako demande à la France de retirer ses soldats sans délai. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, installé par les militaires, a qualifié la décision française de violation flagrante des accords entre les deux pays.
Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité civils et militaires, maliens et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité.
Emmanuel Macron a depuis réagi et a rejeté les exigences de la junte malienne. On écoute le chef de l'État français.
La France a annoncé hier la réarticulation de notre dispositif. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme.
Voilà pour le chef de l'État, Emmanuel Macron. Toujours en politique française, c'est comme un air de rattrapage pour la candidate de la droite à la présidentielle. Après un meeting au Zénith de Paris jugé raté par beaucoup, Valérie Pécresse s'est illustrée au Canet, dans les Alpes-Maritimes, en tentant une nouvelle formule avec une mise en scène plus classique et sans notes cette fois. Correspondance à Cannes de Lucille Gimbert pour RFI.
Meeting raté, sondage en baisse. Après les nuages noirs du début de semaine, Valérie Pécresse veut installer une autre image de sa campagne. Alors sous le soleil de Cannes, elle va au contact des Français sur les terrasses et esquive les questions des journalistes.
On ne parle pas de politique politicienne, on parle de mon projet pour la France.
Comment vous avez vécu cette semaine ?
Pardon, il y a M. Lisnard qui veut peut-être parler.
Critiqué en particulier pour avoir fait référence à la théorie raciste du supposé grand remplacement, une théorie promue par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, la candidate dénonce des attaques venues du camp d'Emmanuel Macron.
On tourne la page. Moi, ce que je veux, c'est que mon projet se fasse connaître. Et je ne veux pas qu'on le déforme, je ne veux pas qu'on le réduise à une seule de ses parties. On a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait un face-à-face uniquement avec les extrêmes, mais parce qu'il sait que voter Zemmour, voter Le Pen, c'est voter pour lui à la fin. La seule qui peut porter un vrai projet d'alternance crédible, l'ordre, mais aussi l'humanisme, c'est moi.
Mais sur ces terres des Alpes-Maritimes, friandes d'une droite dure, beaucoup de sympathisants LR sont dubitatifs, comme Anne, 69 ans.
Quand elle s'exprime, j'arrive pas à être convaincue. J'ai beaucoup d'amis qui sont de droite et qui disent la même chose. Et il y en a qui se tournent vers Éric Zemmour. Pourquoi pas ?
Et la course à la présidentielle s'arrête, elle, pour Florian Philippot. L'ancien bras droit de Marine Le Pen et figure des manifestants anti-pass vaccinal annonce qu'il retire sa candidature. Pourquoi ? Eh bien, parce que le président du mouvement Les Patriotes n'a réussi à obtenir qu'un seul parrainage sur les 500 nécessaires. Pas d'appel pour l'heure à soutenir un autre candidat. Retour en Australie à présent et le pays commémore le 80e anniversaire du bombardement de Darwin. Une cérémonie spéciale est prévue dans les territoires du Nord aujourd'hui. On vous rappelle les faits terribles. Le 19 février 1942, une formation d'avions japonais descend sur Darwin lors du premier des deux raids de la Seconde Guerre mondiale. Au moins 235 personnes ont été tuées, plus de 400 blessées, tandis que 30 avions ont été détruits et 11 navires coulés. Des descendants du peuple Larakia de Darwin assistent à la cérémonie aujourd'hui pour reconnaître comment les peuples autochtones et non autochtones ont travaillé ensemble main dans la main pour faire face à la guerre. Le point de votre météo de ce samedi, Perth du soleil 37 degrés, Adélaïde 26 degrés, Melbourne 24, Hobart et Canberra comptaient 25 degrés, nuageux à Sydney avec 26 degrés, des averses à Brisbane 30 degrés et enfin comptaient 32 degrés à Cairns et 33 à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.